c'est le dernier des cultes. Où on fait tout. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je dois avancer un peu le micro? Ça va? 1, 2, 1, 2, c'est bon? Super, génial. Ok. Il y a des textes dans la Bible, moi, qui me fascinent et qui me font rêver. Des fois, je me mets à la place des personnages. Il y a vraiment des récits qui sont vraiment excellents. Il y a des, franchement, je me dis, il y en a qui ont vécu des choses vraiment super. J'aimerais en vivre d'aussi belles, d'aussi grandes. Ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un personnage qui est cité dans Hébreux 11, comme un homme de foi. On va parler de Gédéon. De Gédéon. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir dans le livre des Juges, au chapitre 6. Donc c'est une histoire qu'on connaît tous très bien, je pense, pour la plupart. Mais bon, en la relisant, moi ça m'a fait du bien, le Seigneur m'a parlé, je pense que même si c'est des textes et des récits qu'on connaît par cœur, le Seigneur peut encore nous parler et toujours nous parler. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, qu'il parle à vos cœurs, qu'il parle à votre intelligence, à votre intellect, et que ça produise un bon fruit dans chacune de nos vies. Donc le contexte, Dieu a délivré le peuple d'Israël, le peuple hébreu, de l'esclavage en Égypte, puis il l'a fait entrer dans le pays promis. Il avait conclu une alliance avec eux. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et Josué avait pris le relais de Moïse ensuite pour conduire le peuple, mais après sa mort, et après la mort des anciens qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour eux arrive. Et là, une nouvelle période commence, durant laquelle le peuple se tourne à répétition vers des idoles, vers les dieux, des peuples au milieu desquels ils sont, des peuples avec qui ils ont conclu des alliances, alors que Dieu les avait mis en garde. Et donc Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils crient à lui pour implorer son secours. Et donc Dieu va susciter des juges en Israël pour les délivrer. Et Gédéon, on va le voir, sera l'un d'entre eux. Donc on va lire pour commencer les versets 1 à 10. Juges 6, versets 1 à 10. « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. » Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Se détourner de Dieu n'est jamais sans conséquence. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On peut lire plus loin quand on lit le récit où un ange va apparaître à Gédéon et va lui demander de détruire les autels que son père a mis en place. Il y avait une idolâtrie très forte en verbal, le dieu du soleil, et Astarté, le dieu de la lune. Et Astarté était représenté par un tronc d'arbre sans branches, et en général, sur ce tronc était gravé un symbole représentant la déesse. C'est ce qu'on appelle les poteaux d'Achéra en hébreu. Ce dieu était considéré comme la déesse de l'amour et de la guerre. Son culte était caractérisé par la sensualité, la prostitution sacrée, et les prêtres pratiquaient la divination. Et pourtant, quand on regarde un peu plus haut dans les textes, dans Deutéronome et ailleurs, Dieu avait donné des règles. Il avait interdit le culte de ses dieux. Il avait interdit le culte d'Astarté. « Je vous ai dit, leur dit l'Éternel, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous, vous n'avez pas écouté ma voix. » Alors quand il dit « vous ne craindrez pas », on parle, c'est comme la crainte de l'Éternel. On parle de révérence, on parle d'honneur, on parle de respect. Et Dieu les avait mis en garde. Nous voyons un peuple qui se laisse influencer par la culture, par la société au milieu de laquelle il est. C'est ce qui arrive quand on met Dieu de côté au second plan. Petit à petit, on accepte de se soumettre à des valeurs, on accepte de se soumettre à des vérités, des schémas de pensée qui sont contraires à celles de Dieu. Et on en oublie ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, et même jusqu'à qui il est. C'est ce qui s'était passé avec cette génération après Josué. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, je fais une parenthèse, comment se fait-il qu'une génération après celle de Josué soit arrivée sans connaître Dieu ? Ça doit nous interpeller sur l'importance de la transmission. Et la conséquence de leur désobéissance, c'est que Dieu décide de ne pas déposséder les habitants du pays en leur faveur, qu'ils seront pour eux des adversaires, et que leurs dieux seront un piège pour eux. Dieu ne combat plus pour eux. C'est comme s'il avait retiré sa main. Nous voyons toute l'arrogance d'un peuple qui se suffit à lui-même. Dieu ne renie pas ses promesses envers son peuple, mais il accomplit pleinement ses desseins avec un peuple fidèle qui s'attache à lui. Si on lit un peu plus haut dans Josué, Josué les avait mis en garde. Je vais vous lire le Josué 23, les versets 4 à 13. « Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus ces nations qui restent à conquérir, à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, le repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche, pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu, et vous ne l'emploierez pas dans vos serments. Vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne vous prosternerez pas devant eux. Mais vous, vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuit mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines pour vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. » L'avertissement était pourtant très clair. Très, très clair. Et malgré ça, cette nation se laisse influencer. Elle est au milieu de cette autre culture, de cet autre peuple. Elle voit ce qui se passe, elle entend ce qui se passe. Et petit à petit, elle fait des concessions. Elle fait des alliances. Et petit à petit, ils perdent de vue l'Éternel. Et puis d'autres dieux arrivent. Et puis ils montent des statues, ils montent d'autres choses. Mais ce n'est pas sans conséquence, comme on l'a dit. Avec ça arrivent des difficultés, avec ça arrive un peuple plus fort, plus nombreux, Madian. Le texte nous dit qu'il était semblable à des sauterelles, comme si c'était le sable de la mer. Alors je ne sais pas si vous imaginez, dans les grands films, on voit souvent, quand il y a des grandes armées, à perte de vue, et donc on a ce peuple hébreu, il y a cette armée qui est immense, et ils se font déposséder de tout, et c'est difficile, de plus en plus difficile. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple crie à Dieu. Et là, je suis touché, parce que Dieu fait. Ils se sont détournés de lui. Ils crient à Dieu, et là, qu'est-ce que Dieu fait ? Il les écoute. Malgré leur désobéissance, il les écoute, il entend leurs cris. Il ne reste pas silencieux, mais il leur répond. Et ici, il le fait au travers de la bouche d'un prophète. Et Dieu fait miséricorde, et il les délivre. C'est notre Dieu. Infiniment bon, patient. Il n'a jamais abandonné son peuple quand il a crié à lui pour obtenir sa miséricorde et son secours. Dieu est toujours intervenu. Il a usé de patience extraordinaire envers lui, même quand il se détournait de lui. Dieu était toujours là pour entendre ses cris. La Bible dit que nous sommes le peuple de Dieu. Si on lit dans 1 Pierre 2, verset 10, il est dit que Dieu a fait de nous son peuple. Il nous a sauvés, comme il a sauvé le peuple hébreu de la main des Égyptiens. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver de la mort et du pouvoir du péché. Et ça, quand on l'accepte sincèrement dans nos cœurs, nous avons l'assurance d'être sauvés. C'est quelque chose d'irrévocable, d'absolu. C'est quelque chose qui ne pourra pas changer. Comme ce peuple hébreu qui avait été délivré de la main des Égyptiens, vous avez été sauvés de la mort et du péché. Si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes sauvés. C'est irrévocable. Et ce matin, si ce n'est pas le cas encore, je vous invite vraiment à donner votre cœur à Jésus parce qu'il peut changer votre vie. Il peut changer votre vie. Mais quand bien même nous avons été sauvés, il peut arriver des moments où dans la vie, nous nous choisissons de placer nos vies sous la coupe d'autres dieux. Alors ça peut paraître un peu radical de dire ça, mais c'est logique en fait. Moi quand je lis ce texte, honnêtement je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand je lis ça, et en plus quand on lit les juges, on se rend compte que le peuple se crie à Dieu, et puis ensuite rebelote, ils vont refaire des faux dieux, mettre des idoles, etc. Ils vont recrier à Dieu, et ainsi de suite, et on a l'impression que c'est un cycle, et je me dis, mais ils sont stupides, c'est pas possible, comment c'est possible? Avec ce qu'ils voient, ce que Dieu fait pour eux, on va lire le récit après de Gédéon, on se dit, enfin moi je me dis, mais c'est... franchement, je ne suis pas comme eux. Mais en y réfléchissant bien, parfois, je me pose la question quand même un peu. Quand Dieu n'a pas la première place dans nos vies, n'allons pas croire que la place est vide. C'est qu'on y a mis autre chose. Et c'est subtil. C'est ça qui est tragique, c'est que dans notre culture, dans notre société actuelle, c'est très subtil. Cela peut être par exemple l'égocentrisme, le moi d'abord. Ça, c'est très très présent de nos jours. C'est moi qui conduis ma vie. L'idée qu'avoir tout ce que vous voulez vous rendra heureux est un leurre. Et pourtant, bien présent. Ça peut être l'amour de l'argent. Ma priorité, c'est de gagner beaucoup d'argent, c'est d'être millionnaire. Ça peut être l'orgueil, ça peut être l'oisiveté. L'oisiveté, ça c'est quelque chose aussi. L'égoïsme. Les relations inappropriées, on pourrait faire une liste très longue, le péché en fait. Et dans ces moments-là, nous tournons le dos à Dieu et l'écartons de la première place dans nos vies. Ça ne remet pas en question le fait qu'il nous ait sauvés, comme je l'ai dit, hein, c'est fait, comme Dieu qui avait sauvé le peuple hébreu de la main des Égyptiens, mais Jésus attend plus que nous, que juste le considérer comme un sauveur. Il veut être le Seigneur et le Maître de nos vies. On le répète souvent dans nos messages, dans nos prédications, mais c'est tellement important. Il ne veut pas juste être votre sauveur, il veut être le Seigneur et le Maître de nos vies, de vos vies. Et quand on s'éloigne de Dieu, on s'écarte en fait de lui. Ce n'est pas lui qui part, mais c'est nous qui nous tournons à lui, qui nous tournons le dos. Et la conséquence, c'est qu'on oublie petit à petit qui il est. On oublie sa puissance. Et quand les épreuves arrivent, on se demande où est Dieu. Et on crie à lui. Et on oublie qui il est. On oublie ce qu'il est capable de faire. L'épreuve nous terrasse. C'est difficile. Quand on fait ça, quand on s'éloigne de Dieu, c'est comme si on jette de l'eau sur les flammes de notre foi. Hein. Il y a la foi qui est bien présente et puis on se détourne et c'est comme si on éteignait le feu. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont oublié qui était Dieu et leur foi en lui en a été impactée jusqu'au moment où la vie n'était plus supportable. Et où ils ont crié à Dieu. Et là, je comprends. Dieu qui cesse de combattre pour eux. Au point où il crie à lui, il se rappelle. Mais on avait un Dieu qui combattait pour nous. Ce qui est important, et ce que je voulais dire, c'est que Dieu accomplit pleinement ses desseins avec un peuple fidèle qui s'attache à lui. Dieu a des projets de bonheur pour chacune et pour chacun d'entre vous. Mais il veut que nous l'acceptions comme le Seigneur de nos vies, pas juste comme notre Sauveur, même s'il l'est bien entendu. Et ça veut dire le mettre à la première place. Et ça commence le matin, quand je me lève. Hein ? Quand je me lève, ne checkez pas vos téléphones portables au réveil. Je dis ça, mais quand je le dis à moi-même. Hein. Souvent, premier réflexe, je me lève, allez hop, Figaro, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? C'est quoi les news ? Pire des choses à faire. Ouvrez la parole de Dieu. Lisez un verset, lisez un passage. Remerciez Dieu, louez-le, remettez-lui votre journée. Dites-lui, Seigneur, je veux vivre cette journée à tes côtés. Je veux vivre cette journée à tes côtés. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Je vais être soumis à ce que tu as prévu pour moi ce matin. Seigneur, donne-moi des occasions de témoigner. Si tu places quelqu'un sur ma route, et qui me pose des questions, je veux répondre. Si vous ne faites pas ça le matin au réveil, ne croyez pas que vous allez le faire à un autre moment de la journée. Voilà. Mon premier point, c'était ça. Faire attention à tout ce qui peut nous détourner de qui est Dieu et nous faire oublier qui il est, aux idoles qu'il peut y avoir dans nos vies. J'aimerais prendre juste un instant, 2 minutes pour prier et demander au Saint-Esprit de nous parler et peut-être de mettre le point sur quelque chose qui aujourd'hui prend trop de place dans nos vies. Et ça peut être l'occasion peut-être de dire ce matin, Seigneur, je rends compte que tu me montres ça, ben je veux faire quelque chose, je veux que tu m'aides à le mettre de côté, je veux vraiment que tu sois à la première place. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci parce qu'elle nous parle. Tu nous as sauvés, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Tu as changé nos vies, tu nous as donné une espérance, tu nous as donné un avenir. Nous avons cette certitude que nous serons avec toi dans les lieux célestes pour l'éternité, et c'est merveilleux, c'est une grâce. Mais tu nous appelles aussi à marcher à ta suite, Seigneur. Tu nous appelles à être des disciples. Tu nous appelles à ce que tu sois le Seigneur de nos vies, Seigneur, et c'est ce que nous voulons. C'est ce que je veux, Seigneur. Et aussi, s'il y a des choses dans ma vie, s'il y a des choses dans nos vies qui aujourd'hui nous empêchent de laisser la première place, parle ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs. Montre-nous. Montre-nous ce qui prend trop de place. Parce qu'on veut te laisser la première place dans nos vies. On veut vivre une vie avec toi, Seigneur. Pas avec le souvenir de toi, mais on veut vivre une vie avec toi au quotidien, Seigneur. Dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque circonstance, nous voulons que tu sois à nos côtés, nous voulons que tu combattes pour nous. Merci Seigneur de parler. Amen. Si le Seigneur vous a montré quelque chose, ce n'est pas le fruit de notre imagination. Si vous avez pensé à quelque chose de... Moi, je pense que le Seigneur y parle et qu'il utilise aussi ça pour nous parler. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et vraiment, je vous encourage à prendre un temps avec le Seigneur et à poser ça. Et à dire, écoute, Seigneur, j'ai conscience que ça prend beaucoup de place. Et je veux te laisser la première place et je veux mettre ça de côté. Et ça va passer par des actions concrètes. Là, concrètement, ce qui a dû se passer, c'est que Dieu, il a demandé à Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal et les poteaux d'Akéra, on le lit plus tard dans le texte, et il a dû le faire. Et on va le voir. Mais ça va peut-être demander une action pratique. Peut-être fermer quelque chose, arrêter un abonnement, j'en sais rien. Ça peut être peut-être cesser une relation avec quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, mais ça passe par des actions concrètes. Il y a le désir, on demande à Dieu son aide, et puis derrière, il faut se mettre en marche. Et ce qui est super, c'est que Dieu nous accompagne. Et on va le voir, il a accompagné Gédéon. Alors on va continuer notre lecture. On va lire à partir du verset 11 et on va lire jusqu'au verset 24. Puis vint l'ange de l'Éternel. Donc on se rappelle, hein, Dieu vient de parler au travers de la bouche d'un prophète au peuple. Il termine en disant « Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébin d'Oprah qui appartenait à Joas, le clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il lui répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. » « Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il y mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois sans crainte et en paix, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom « L'Éternel paix ». Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Waouh. Et le texte continue. Donc là, ce que je vous ai dit, Dieu va demander à Gédéon de détruire les autels, et donc Gédéon a peur. Et donc comme il a peur, il va le faire, mais il va le faire de nuit. Il va détruire l'autel de Baal, il va détruire les poteaux. Et puis donc on va savoir que c'est lui, on va savoir que c'est Gédéon qui a fait ça, et donc le peuple hébreu va vouloir tuer Gédéon, et puis le père va prendre sa défense, le père de Gédéon va prendre sa défense. Et puis on continue, et puis il y a toujours cette invitation, enfin ce commandement de Dieu à Gédéon d'aller battre les Madianites. Et donc il doute, et vous connaissez cette histoire aussi, il va demander une toison à l'Éternel, parce qu'il doute toujours, la toison, vous savez, la toison, il demande à ce que la toison soit sèche, puis ensuite soit mouillée, vous connaissez ce texte à deux reprises, et puis le Seigneur va répondre à toutes ses requêtes, et donc ça va revigorer la foi de Gédéon, et puis donc Gédéon va commencer à sélectionner les personnes pour son armée, et puis là aussi, sans doute, vous connaissez l'histoire, mais il est avec 32 000 hommes prêts à partir au combat, et Dieu va lui dire, mais c'est trop, il y a trop de monde, si vous partez et que vous avez la victoire, ben, vous allez tirer gloire pour vous, et vous ne saurez pas que c'est moi qui suis intervenu, donc il va demander à Gédéon de demander à tous ceux qui ont peur de partir au combat, ben, de partir, et puis donc il y a toute une partie qui s'en va, et donc il y a beaucoup moins d'hommes, et puis il continue, et puis jusqu'à la fin, il n'y aura plus que 300 hommes, et puis Dieu va donner la victoire à Gédéon avec 300 hommes. C'est un récit exceptionnel. Mais quand Dieu appelle Gédéon pour être le prochain juge d'Israël, il le salue comme un vaillant héros. Mais Gédéon répond avec des doutes à l'égard des plans de Dieu et croit qu'il les a abandonnés. Et puis Dieu lui répond, mais va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël avec la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et puis là, Gédéon va trouver des excuses pour justifier qu'il ne peut pas être le sauveur. Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Et l'Éternel lui répond à nouveau, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et puis Gédéon, il doute toujours, il va demander un signe. Et c'est ce signe qui va permettre à Gédéon de commencer à croire. Gédéon n'est pas un homme puissant et vaillant. Les premiers sentiments qu'il manifeste sont de la peur et de l'incrédulité. Et quand Dieu va ensuite lui demander de détruire les autels et les idoles de sa famille, je vous l'ai dit, il le fait de nuit, car il a peur. Il va demander plusieurs signes, parce qu'il est toujours pas convaincu que Dieu veut l'utiliser. Et Dieu agit ici envers Gédéon avec douceur, avec bienveillance, avec patience, honnêtement, avec indulgence et avec amour. Et pourtant, on lit d'autres passages où Dieu peut aussi réprimander ses enfants pour leur manque de foi. Hein ? On peut le lire dans l'évangile de Matthieu, quand il reproche à ses disciples de ne pas avoir réussi à chasser un démon, il les reprend pour leur manque de foi. Et ici, pourtant, ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce n'est pas le cas. Il ne lui dit pas, comment ça, Gédéon ? T'as besoin d'un autre signe ? Mais franchement, mais t'as pas compris ? Mais t'es nul, mais c'est pas possible ! Il ne fait pas ça. Il ne lui parle pas de ses échecs. Mais il marche au contraire à côté de Gédéon pour en faire l'homme puissant et valeureux qu'il a dit qu'il était. Pourquoi ? Pas parce qu'il a vu le courage dans les traits de caractère de Gédéon. Gédéon a été appelé vaillant héros à cause de ce que Dieu est. Gédéon a été appelé vaillant héros à cause de ce que Dieu est. Il avait prévu de faire de Gédéon un vaillant héros parce que Dieu est le vaillant héros. Je ne sais pas si vous avez eu des paroles prophétiques sur vos vies. J'en ai eu quelques-unes et c'est marrant parce que cette semaine, en parallèle de ce message que je préparais, je les ai relus. Et puis quand on lit ce qui est écrit, on se dit « mais on est à 10 000 !» On est à 10 000, mais ce n'est pas possible. Dieu prévoit des choses pour moi, il a un plan pour ma vie. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible si c'était humainement que je devais accomplir cela. Effectivement, je n'ai pas la capacité, mais la capacité, elle se trouve en Dieu. C'est Dieu qui est capable d'agir. C'est Dieu qui est le vaillant héros. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. C'est lui qui agit. Jésus est l'ultime vaillant héros qui vient nous délivrer de nos ennemis. Dieu a appelé Gédéon à délivrer son peuple, mais il l'a d'abord appelé à être différent de ce qu'il était au moment de son appel. Et entre les mains puissantes de Dieu, Gédéon va devenir un vaillant héros. Dieu s'engage avec Gédéon sur le long terme. Il ne l'abandonne pas en chemin. On le voit par la suite, quand Dieu réduit l'armée de Gédéon, je vous l'ai dit, de 32 000 à 300 hommes, afin qu'Israël ne puisse pas s'attribuer la victoire. Là encore, Dieu va s'occuper de fortifier Gédéon. Moi, je me mets à la place de Gédéon. Alors, ok, j'ai eu tous les signes qui s'est passé avant. On me demande de partir au combat. Vous vous rappelez, c'est l'armée, les sauterelles, le sable, la mer, c'est innombrable. C'est une armée puissante. Et puis Dieu, il réduit mon armée. 300 hommes, 300 hommes, des milliers, 300 hommes, des milliers. Et Gédéon, et Dieu, pardon, encore une fois, va venir en aide à Gédéon. J'aimerais juste lire ces quelques versets encore au chapitre 7, les versets 9 à 15. Je trouve ça génial. L'Éternel dit à Gédéon, pendant cette nuit, lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Donc il dit à Gédéon, t'es tout seul, descends, je t'ai livré, vas-y tout seul. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, on parle du camp des Madianites. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Discrètement, et bien sûr, on imagine. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, on ne voit plus des chameaux, on voit des dunes de sable à perte de vue. Gédéon arrive, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. C'est des Madianites, hein. Il est à côté, on peut imaginer d'une tente Madianite, et il entend un homme parler d'un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve, et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurté, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. Tu m'étonnes. Revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Waouh ! C'est l'ennemi qui donne une parole et son interprétation. C'est moi, je suis abasourdi. Je crois que traverser des épreuves, des défis, des batailles à côté de Dieu, en étant soumis à sa volonté, nous façonne et nous transforme. Ce que transmet une génération à la génération suivante est super important, et j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu est capital, mais l'expérience d'une vie vécue avec Dieu l'est tout autant. L'expérience d'une vie vécue avec Dieu l'est tout autant. Nos vies doivent lui être soumises et non pas déconnectées de lui. On doit mettre en pratique tout ce qui est dans ce livre. On doit vivre notre vie avec Christ, avec Dieu. Dieu fait les choses de façon inhabituelle dans la Bible. On voit cela partout. Dieu, il aime faire les choses d'une façon qui paraisse insensée aux hommes, mais qui démontre sa gloire. Construire une arche dans le désert. Fuir au travers de la mer rouge plutôt que de la contourner. Parler à un rocher quand vous avez besoin d'eau. Marcher autour d'une ville fortifiée et sonner des trompettes quand vous voulez la vaincre. Envoyer un garçon avec un lance-pierre quand il y a un géant à combattre. Verser de l'eau sur le bois du mont Carmel avant de demander au feu de tomber du ciel. Dire à 12 hommes d'en nourrir 5 000 avec 5 pains et 2 poissons. Et la liste est longue. Ces histoires sont-elles dans la Bible pour nous encourager à faire des choses comme le monde le fait, ou nous encourager à écouter Dieu et à le suivre d'une manière qui peut paraître insensée? Est-ce que ces histoires sont dans la Bible pour mettre en évidence la capacité et la toute-puissance des hommes qui ont écouté Dieu? Franchement, ils étaient comme vous et moi. C'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Les disciples, quand on les regarde, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Au contraire, pour manifester la gloire de Dieu au travers de leur obéissance. Ces histoires sont là, au contraire, pour manifester la gloire de Dieu au travers de leur obéissance. Nous devons écouter et entendre ce que Dieu dit, lui faire confiance et avec humilité lui obéir. Nous sommes en quelque sorte comme Gédéon avec notre faible foi, mais heureusement, Dieu ne dépend pas de notre niveau de foi pour agir et accomplir son plan. Il dépend de lui-même. C'est en lui que nous devons puiser notre force à la source. Cela doit nous aider aussi dans nos interactions les uns avec les autres par rapport aux échecs et à la faiblesse que nous avons les uns les autres. C'est souvent plus facile de réprimander, de dire aux autres comme ils peuvent s'améliorer, puis de passer à autre chose. Mais certaines situations exigent de la patience, de l'encouragement et du réconfort. Et parfois, nous aussi, nous avons besoin d'être encouragés réconfortés au milieu de nos faiblesses et d'échecs répétés. Si un Dieu parfait et saint le fait, à combien plus forte raison devons-nous le faire aussi les uns envers les autres ? C'est comme ça que Dieu a procédé avec Gédéon, là. Il peut y avoir des situations où on doit faire de même avec nos frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul vaillant héros qui n'a jamais échoué. Il a tout accompli parfaitement ce que le Père lui avait demandé de faire. Grâce à lui, nous sommes sauvés de nos ennemis, nous sommes transformés en vaillants hommes et femmes. Soyez assurés que Dieu est à l'œuvre dans vos vies, quel que soit votre niveau de foi. L'Éternel a fait cette promesse à Gédéon. Il lui a dit « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça ? Quelqu'un dans la parole de Dieu ? Jésus. On lit dans les évangiles, hein, à plusieurs endroits. Jésus-Christ, je serai avec vous. N'est-il pas Dieu ? N'est-il pas Dieu lui-même ? Dieu a choisi l'Église, chacune et chacun d'entre nous, pour atteindre et toucher des hommes et femmes de toute nation et de toute tribu. Ça peut paraître insensé aux yeux du monde, mais c'est ce que Dieu a choisi de faire. C'est comme ça qu'il a décidé de procéder. Vous sauver et vous appeler à marcher à sa suite pour aller y faire des nations des disciples. C'est un appel communautaire sur nos vies, qui peut paraître insensé parfois, mais qui est de Dieu. Et si on accepte cela, si on accepte de faire confiance à Dieu, si on accepte de lui obéir dans ce qu'il va nous demander de faire, si on lui laisse la première place dans nos vies, si on met de côté les idoles de nos vies, il va agir au travers de vous et manifester sa gloire. Et ça commence souvent avec des petites choses, mais ça commence. Il n'y a pas d'immobilisme avec Jésus, il y a du mouvement. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en mouvement, si vous n'êtes pas en action dans la mission avec Jésus, même si c'est dans de petites choses, si vous n'êtes pas en mouvement alors que c'est que Jésus n'est pas à la juste place dans vos vies. C'est que Jésus n'est pas à la juste place dans vos vies. Il est peut-être votre sauveur, mais il n'est pas encore le Seigneur de vos vies. Il n'y a pas d'immobilisme avec Jésus. Et à contrario, parfois aussi, on peut faire erreur de penser qu'on est suffisamment capable. On peut tomber dans l'orgueil et présumer que nos talents sont suffisants. Non, on a besoin de Dieu. Dieu nous appelle à faire équipe avec lui. Lorsqu'on est déconnecté de lui, nous ne pouvons rien faire si nous demeurons enracinés en lui. Jésus nous promet que nous pouvons tout accomplir en son nom. C'est la présence de Jésus à nos côtés qui nous qualifie pour entrer dans son appel et pour accomplir sa mission. Et cette présence, elle est là par son esprit. C'est une année qui va démarrer, une nouvelle année, il va y avoir des projets, il va y avoir des défis. Peut-être que vous avez des défis dans vos vies, peut-être que vous allez avoir des projets. Peut-être Dieu vous met à cœur quelque chose. J'aimerais vraiment que ce message vous encourage ce matin. Vous dire que si vous mettez Dieu à la première place dans vos vies, il est à vos côtés et c'est lui qui va combattre. Ne soyons pas effrayés peut-être par rapport à des choses. Le Seigneur va peut-être nous appeler en tant qu'Église à faire des choses qui paraissent insensées aux yeux humains, où on va calculer, on va regarder, mais on n'est que 50, ou on n'a que tant d'argent, ou je ne sais pas. Et puis on va peut-être être effrayés, nous rappeler que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui pourvoit, que c'est Dieu qui combat. Toutes ces histoires qu'on suit dans la Bible, c'est des histoires qui sont réelles. On a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est victorieux, on a un Dieu qui peut tout faire, et qui veut tout faire au travers de nous, au travers d'hommes et de femmes, qui se soumettent à lui, qui font de lui le Seigneur de leur vie. Dieu sera notre force. Dieu sera celui qui pourvoit. Dieu sera celui qui agit, qui délivre. Amen. Amen. Soyez encouragés. Amen. On se lève.